Contes et lectures. Carlo Ruexeguer.
Chers visiteurs, merci de vous joindre à nous et surtout au Théâtre de l'Oreille pour de nouvelles histoires. Et celle-là, elle est écrite par Monsieur Philippe Delova, qui a déjà été édité aux éditions du Masque d'Or, deux fois d'ailleurs pour des polars. Alors son histoire s'appelle Le Repentir, et je rappelle à ceux qui seraient éventuellement intéressés, si vous aimez écrire, si vous faites des textes ou des nouvelles ou des petites histoires ou des choses dans ce genre-là, n'hésitez pas à nous envoyer vos textes, on fera une petite sélection et ça serait assez sympathique de découvrir d'autres talents et notre site pourrait vous être ouvert. Donc, Le Repentir. Rien de pire que de prendre la route à cette heure-là. J'ai le sommeil sur moi et le désir de vivre ne m'habite pas encore. Il fait gris au-dessus de l'asphalte et gris dans ma tête. Des paquets de brume s'écrasent sur le pare-brise. Au bout, il y aura la ville. Quelle idée de me ficher en rendez-vous aux aurores. Ces types-là travaillent trop, ils ne se rendent pas compte que pour des mecs comme moi... Ceux qui glandent, je veux dire. 8h30, ça fait tôt. Bon sang. Virage à la corde. Dur d'allumer une cigarette à ce moment-là. Mais l'envie est trop pressante, alors j'essaye quand même. Volant d'une main, briquet de l'autre et clope qui pend à ma lèvre. La courbe cesse. Je fume enfin. C'est la troisième. Il y en a deux à la maison. Une. Devant le bol de café au réveil, et une autre sur la terrasse 5 minutes plus tard. Celle-là, c'est un rituel. Remarque, celle du café aussi. Je baisse un peu ma vitre par respect pour les passagers que je n'ai pas. Qu'est-ce qu'il va me demander, le toubib de l'hosto? Toujours les mêmes conneries, j'imagine. Si je clope, affirmatif. Si je bois... Et comment, mon pote? Et après, les radios, je les ai déjà faites, les analyses aussi. Ok, je suis pas mal esquinté, j'en conviens. Mais à 50 berges, qui ne l'est pas? Ha, tu peux me dire? À part les gens raisonnables, bien sûr. Les gens qui ont du travail et des enfants. J'allume la radio et un animateur débile se met à beugler dans l'habitacle. Je tourne le potard qui sert à passer la station en vue... Du reggae, de la pub, des infos, le requiem de Mozart, un tube des années 80, encore de la pub, l'horoscope, oh, j'éteins. Pourtant, j'adore ça l'horoscope, mais j'entends trop parler du cancer en ce moment. Merde, voilà les embouteillages. Oh, ça roule au pas. Ma vieille bagnole risque de se mettre à chauffer, sa tuyauterie est aussi usée que la mienne. Faudrait pas qu'elle me laisse en rade, elle aussi. Un coup d'œil sur ma montre, même à ce rythme poussif, je serai à l'heure à mon rendez-vous. J'ai 100 fois répété mon intro. Est-ce que je vais mourir, docteur? Ça peut paraître incroyable, mais le généraliste que j'ai récemment consulté n'a pas daigné ou osé répondre à cette simple question. Le spécialiste non plus, d'ailleurs. Je me suis contenté de faire la gueule en regardant la radio de mes poumons et celle de mon foie. Toujours sans commentaire. J'espère que le toubib qui m'attend ce matin aura un peu plus de cran que les autres. C'est vrai, quoi. Faudrait bien qu'une blouse blanche se décide à me dire si je vais clamser ou pas à la fin. Oh, de toute façon, pour ce qui est du mal dont je suis vraisemblablement atteint, le professeur Saint-Pierre est le dernier maillon de la chaîne. Dans le milieu, c'est lui qui donne l'absolution. Je n'espère qu'un truc, c'est que ce mec m'apprenne mes chances de survivre au crabe sous la forme de pourcentage. J'adore ça, les pourcentages. Ça permet d'avoir les idées claires. Vous avez 5% de chances de vous en sortir si vous arrêtez de fumer et de boire. 2% si vous arrêtez de fumer sans arrêter de boire. Et bien sûr 0%, voire moins, si vous n'arrêtez rien. Chante, cocotte, je n'arrête rien, si tu veux savoir. J'aperçois l'hôpital, bâtisse immense qui se dresse sur plusieurs étages et qui s'étend à perte de vue. Je me gare avec facilité à quelques mètres de l'entrée principale. La chance du débutant ou du condamné, c'est comme on veut. Je coupe le moteur et m'extirpe mollement de l'habitacle. J'ai la tête un peu lourde à cause du mauvais whisky ingurgité la veille en quantité déraisonnable. Je claque la portière et prends le temps d'en griller une dernière avant de m'avancer nonchalamment vers la porte de verre automatique qui s'efface en glissant sur le côté pour me laisser le passage. J'écrase discrètement mon mégot et crache les résidus de ma dernière bouffée tout en faisant quelques pas nauséeux dans la halle blanchâtre et gigantesque. Ça grouille de monde. Je jette un regard circulaire. On se croirait au championnat du monde de course en déambulateur. Je me fraye un chemin entre tous ces zombies au teint exsangue qui pour la plupart se trimballent avec des perfusions montées sur roulettes. À direction l'accueil, je décroche un ticket au distributeur en forme d'escargot. 25 numéros me séparent de mon tour. Qu'importe. Il y a plein d'hôtesses dont les guichets sont marqués « ouverts ». Ça devrait aller vite. Je reste debout et, à défaut de pouvoir fumer, je hume l'intérieur de mon paquet de cigarettes. C'est à moi. J'avance vers le guichet où mon numéro vient de sortir. La fille qui m'accueille a l'air plutôt sympa. Elle est rudement jolie aussi, ce qui ne gâte rien. Elle s'appelle Angélique. C'est en tout cas ce qu'affirme le badge qui orne le haut de son chemisier. C'est vrai qu'elle ressemble à un ange, cette fille. Je lui annonce les raisons de ma présence et lui prête ma carte vitale. Elle l'insère dans le lecteur, se met à pianoter le clavier de son ordinateur et quelques secondes plus tard, arborant un large sourire, elle me fait don d'une planche d'étiquette à présenter au secrétariat du 7e. C'est donc au dernier étage que officie le grand Manitou. Je remercie Angélique. Ses yeux sont d'un bleu céleste. « Bonne journée, monsieur. En voilà une au moins qui pense que je serai encore en vie ce soir. » Nouveau slalom entre les déambulateurs et les perfusés. Je fais la queue devant la lignée d'ascenseurs. Après une bonne minute d'attente, l'un d'eux ouvre brusquement la gueule et c'est le roche. Je m'incruste. On est serré comme des sardines là-dedans. L'appareil de levage égrène les niveaux. Je suis le dernier occupant de la cabine lorsque celle-ci baie sur le 7e. Bizarrement, le couloir est désert, j'avance d'un pas. Bref, regard à droite, puis à gauche. J'hésite entre deux options. Pas de panneau, ni personne pour me renseigner. Ah, vachement mal organisé le secteur. Je me risque à droite, je fais quelques pas, puis me ravise. La lumière des néons est bien trop vive dans cette direction. Presque aveuglante, impossible de distinguer ce qu'il y a au bout. Le mec qui a réglé l'éclairage ne doit pas être celui qui paye les factures. Demi-tour. L'autre partie du couloir est raisonnablement plus sombre, je l'arpente. Je n'y croise personne et ça n'en finit pas. Un détail me chagrine, il n'y a aucune chambre au 7e étage, aucun bureau non plus. Je n'ai encore pas dépassé la moindre porte qui laisserait penser que ce niveau est habité par des malades ou du personnel soignant. Il n'y a pas âme qui vive. Est-ce qu'Angélique m'aurait mal tuyauté? Je continue d'avancer. Perplexe. Une silhouette enfin, tout au bout, à contre-jour. Je presse mon pas. « Mademoiselle, s'il vous plaît !» La jeune femme se retourne et s'immobilise. Je la rejoins en courant, presque. Je distingue enfin ses traits. Ils me surprennent par leur finesse séraphique. La fille me sourit, main sur les hanches. J'ai failli attendre. La voix est douce et le ton enjoué. Je m'étonne. Vous m'attendiez? Et comment? Vous êtes le seul rendez-vous du professeur Saint-Pierre ce matin. Je suis sa secrétaire. J'ébauche un sourire. Saint-Pierre en mal de patient. Qui croirait à un truc pareil? Nous échangeons une poignée de main. Suivez-moi. J'emboîte le pas de la donzelle. Nous atteignons son bureau une poignée de secondes plus tard, je commente. Bien, dites donc, vous devez vous sentir bien seul au 7e étage en temps normal. Il y a des journées beaucoup plus chargées, vous savez. Elle s'assoit à son bureau et m'invite à prendre place en face d'elle. « Vous avez vos étiquettes ?» Je lui les confie. Elle en retire une de la planche pour la recoller immédiatement en haut d'une grande enveloppe qui porte mon nom et qu'elle vient de faire jaillir dans le tiroir. Ensuite, elle me tend mon dossier médical. Il est épais et commence à se faire lourd. Voilà, c'est tout pour moi. Le professeur vous attend dans le bureau d'à côté. Je me lève, surpris par la rapidité de cette étape liminaire. D'habitude, on me prend au moins la tension, on vérifie les dixièmes de mes yeux, on me pèse, on s'intéresse un minimum à moi, quoi. Elle me raccompagne. Encore un bout de couloir, nouvelle porte, je frappe. Une voix sourde m'enjoint d'entrer. Saint-Pierre trône derrière un bureau gigantesque, je l'imaginais moins vieux. Tête chenue et barbe blanche assortie à sa blouse. Il me salue à peine, me fait signe de m'asseoir en face de lui, s'empare de mon dossier, l'ouvre et commence à le feuilleter. Ses petits yeux furtifs qui roulent dans leurs orbites parcourent les documents avec une attention de surface. Flagrant délit de routine. Quelques grimaces furtives, peu rassurantes, passent sur les traits du toubib alors qu'il attaque le dernier tiers du dossier. Il doit s'agir de mes analyses les plus récentes. Nous n'avons pas encore échangé un traître mot. Je n'ose pas lui poser la fameuse question qui pourtant me taraude et tourne en boucle dans ma tête depuis la voiture. Je me dégonfle. Je me mets à flipper comme un dingue. Le verdict va tomber comme un couperet dans quelques secondes. Je suis au pied du mur. Ce mec va me balancer la vérité. Je le sens. Saint-Pierre ouvre enfin la bouche et rompt le silence. « Faut pas vous étonner. Ce qui devait arriver est arrivé. » Mon sang se glace. J'essaye d'avaler ma salive, mais je n'y parviens pas. « Qu'est-ce qui devait arriver, docteur ?»« Votre décès, pardi. » Le mot me fait presque défaillir. Je l'interroge d'une voix blanche. « Et vous le prévoyez pour quand, mon décès ?» Il hausse les épaules. « Ah !» Il n'est plus à prévoir, il est effectif depuis quelques heures. Vous êtes mort au petit matin, dans votre sommeil. Vous avez d'abord fait un coma éthylique, puis le cœur a lâché. Pas étonnant. Votre organisme était salement abîmé après toutes ces années passées à boire et à fumer. Le vertige me poigne soudain. Le mal est donc fait. Je suis mort et je me suis rendu compte de rien. Mon errance au-delà a commencé à mon insu. Je suis venu à l'hosto post-mortem. Mon dépit laisse bientôt la place à une colère difficilement contenue. « Qu'est-ce que je fous ici, docteur ?»« Oh, cessez de m'appeler docteur, c'est ridicule. Vous n'avez pas répondu à ma question !» Un voile de lassitude habille soudain les traits du vieillard tout blanc. « Vous êtes là pour me confier votre repentir. »« Mon quoi ?» Il me regarde avec dépit, soupire longuement, puis chausse ses lunettes et se penche légèrement au-dessus du dictionnaire ouvert devant ses yeux, à la page du R. Ensuite, il lève un index professoral et déclame sur un ton solennel. « Repentir, nom masculin, regret d'avoir commis une faute et ferme propos de ne plus recommencer. » « Mais de quoi voulez-vous que je me repente ? D'avoir fumé et bu plus que de raison toute votre vie, par exemple ?» Mon air hébété provoque son énervement immédiat. Il compulse fébrilement le registre posé à côté du dictionnaire et hausse le ton. « Mais bon sang, vous avez une idée du nombre de bouteilles que vous avez sifflées en 5 décennies ? Vous voulez aussi connaître le chiffre des paquets de cigarettes ?» Mes yeux se font ronds comme des billes. J'ai lu quelque part que le bon Dieu comptait les cheveux de ses administrés, mais les clopes et les godets, quand même, c'est un peu fort. Il a un geste vague pour enrayer ma digression et demande « Allez, finissons-en. Vous regrettez, oui ou non ?» Je me lève, excédé, fusillant Saint-Pierre du regard. « Regretter, moi ? Plutôt mourir !» Le vieillard n'a même pas esquissé un sourire. Il doit être insensible à l'humour noir. Sa voix se fait lasse. Comme vous voudrez. Puis, avec un mouvement du menton qui clôt notre discussion, pour repartir, c'est l'ascenseur au bout du couloir. Je quitte la pièce sans le saluer et l'entends grommeler dans sa barbe. Encore un qui va faire chuter mes statistiques. Comme je le redoutais, le couloir n'est plus celui que j'ai emprunté en venant. Il m'est impossible de revenir sur mes pas et de rallier le tronçon à la lumière aveuglante. C'est là que j'aurais dû m'enfoncer tout à l'heure. Ça m'aurait évité de rencontrer ce vieux fou de Saint-Pierre et j'aurais pu traiter directement avec son patron. Un mec qui squatte au fond d'un couloir au néon poussé à fond doit être foncièrement plus généreux, rapport aux factures, je veux dire. Et bien moins à cheval sur les principes. Surtout pour un peu de whisky et quelle cibiche. L'ascenseur est ouvert lorsque je l'atteins. Cette fois-ci, c'est lui qui m'attend. Il y a comme une odeur de soufre à l'intérieur. Quelqu'un a dû craquer une allumette. Les portes se referment derrière moi, j'appuie sur l'unique bouton du tableau de bord, et il conduit au sous-sol. Une secousse, et c'est la descente. Il paraît qu'ils ont du Malte hors pair en enfer, et même des Havanes divins d'après ce qui se raconte. Alors, diable ou bon Dieu, après tout.
Contes et lectures. Carlo Ruexeguerre.